écoutez VOA Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounetzello dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Les séparatistes maliens ont revendiqué dimanche une victoire éclatante contre l'armée malienne et ses alliés russes après 3 jours d'intenses combats à Tinza Ouatténé, dans le nord du pays, près de la frontière algérienne. C'est au moment où l'état-major avait annoncé avoir repris dernièrement plusieurs localités dans sa mission de reconquête du territoire. L'armée algérienne a abattu 3 terroristes armés lors d'une opération militaire dans le nord de l'Algérie, a annoncé dimanche le ministère algérien de la Défense dans un communiqué. C'était lors d'une opération de fouille et de ratissage à Al Ataf, dans la préfecture de Ain Defla, selon le communiqué. En RDC, au moins 7 personnes sont mortes et plusieurs ont été grièvement blessées samedi soir dans une bousculade pendant un concert religieux dans un stade de Kinshasa, ont indiqué des médias locaux congolais. La bousculade a eu lieu au stade des Martyrs, au nord de la capitale. Une surpopulation carcérale extrême et de mauvaises conditions de détention dans de nombreux lieux de privation de liberté en Côte d'Ivoire préoccupe le Comité des Nations Unies contre la torture, a affirmé l'organisation internationale. Le comité a aussi été alarmé par les informations concernant l'ampleur de la violence carcérale. Le pays dit avoir appliqué certaines alternatives à la détention, telles que le sursis, la remise de peine ou la liberté conditionnelle et les grâces présidentielles, rapportent les experts, ajoutant que la Côte d'Ivoire qui dit également avoir ouvert de nouvelles prisons. 5 gardes forestiers et 7 soldats ont été tués par des hommes non identifiés dans le parc national du Doublé dans le nord du Bénin, épicentre des violences attribuées aux djihadistes dans le pays, a annoncé samedi une ONG de défense de l'environnement. Contactée par l'AFP, l'armée béninoise n'a pas répondu dans l'immédiat. L'ONG African Parks n'a pas donné les détails sur les circonstances de l'attaque. 35 personnes ont été tuées pendant plusieurs jours de lutte tribale menée par des tirs de fusils automatiques et de mortiers dans le nord-ouest du Pakistan, ont annoncé dimanche des responsables locaux. Les combats entre Madagui sunnites et Malik el chiite ont éclaté mercredi dernier lorsqu'un homme a ouvert le feu lors d'un conseil tribal qui devait trouver une issue à des décennies de conflits sur des terres, a indiqué un responsable de la police locale. 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés en Libye à des peines de 9 à 27 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur les inondations meurtrières de Derna dans l'Est en septembre dernier, a indiqué le procureur dimanche. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, la tempête Daniel, qui a frappé la côte est de la Libye, avait provoqué des inondations amplifiées par la rupture de 2 barrages en amont de Derna qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40 000 déplacés. Israël a promis dimanche de frapper l'ennemi avec force au lendemain d'une frappe meurtrière sur le plateau du Golan. Annexé et imputé au Hezbollah libanais, faisant craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. Toute action peut conduire à l'aggravation de la guerre dans la région, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Selon Israël, un tir de roquette depuis le Liban sur un terrain de base de football a causé la mort samedi de 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans et en a blessé environ 30 autres. Les États-Unis et le Japon ont fermement condamné dimanche les actions déstabilisatrices de la Chine en mer de Chine méridionale notamment et dénoncé la coopération croissante de la Russie avec Pékin et la Corée du Nord à l'issue d'entretiens à Tokyo. Pour Washington et Tokyo, la Chine ambitionne de remodeler l'ordre international à son profit, ce qui représente le plus grand défi stratégique dans la région Indo-Pacifique et au-delà.
Voix et Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Nous explorons les rôles et les responsabilités des leaders religieux et des institutions spirituelles dans la promotion de valeurs universelles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'appel du pape François en faveur de la paix et de l'unité, alors que la France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Le pape a exprimé l'espoir que cet événement soit une occasion de concorde fraternelle pour tous, transcendant les différences et les oppositions. Ce message résonne particulièrement dans le contexte des sociétés en conflit, notamment en Afrique, où les valeurs de paix et d'unité sont essentielles pour surmonter les divisions. Nous discuterons de la manière dont les leaders religieux peuvent s'inspirer de cet appel pour encourager la cohésion et la paix dans leurs communautés respectives. Pour en parler, je suis en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville University. Il est historien et spécialiste des religions. Professeur Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, Frida Darmani, journaliste à Tunis, correspondante de Jeune Afrique en Tunisie. Frida, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais commencer avec vous, professeur Mbodj. Le pape François a évoqué donc cette tradition ancienne de la trêve olympique, où les conflits étaient suspendus pour favoriser la paix. Comment cette pratique pourrait-elle être appliquée dans notre monde actuel et quels pourraient être les effets concrets de cette tradition sur les conflits modernes, notamment en Afrique?
Je crois que le pape a joué son rôle et a fait un vœu, mais qui risque d'être un vœu pire. Les Grecs qui ont inventé les Jeux Olympiques, effectivement, avaient très grande estime cette trêve qui leur permettait de mettre une pause à leur guerre entre les différentes communautés, les différentes cités-états de la guerre, de la Grèce plutôt. Et par la suite, évidemment, avec le nouveau mouvement olympique, les Jeux olympiques ont toujours essayé de rallumer cette flamme, qu'il y ait une pause, qu'il y ait une fraternité, même si c'est momentané durant les Jeux, et espérer qu'après les Jeux, cela va continuer un petit peu. Donc le pape a effectivement fait cette recommandation, a émis ce vœu, qui d'ailleurs rencontre les vœux du Comité olympique international, parce qu'il faut se souvenir que dernièrement, il y a je crois 4 ans, ils ont ajouté à la devise des Jeux olympiques, Situs Altius Fortus, plus vite et plus fort, ils ont ajouté communautaire, c'est-à-dire là, ensemble. Donc le pape répond bien à ce désir. Maintenant, dans le monde actuel, effectivement, nous avons besoin de ça, que ce soit au Soudan, RDC, que ce soit dans la guerre Israël-Palestine, etc. Mais je crois que c'est un peu pire. Malheureusement.
Frida, selon vous, comment cette tradition peut-elle être adaptée et respectée dans notre monde moderne?
Je crois que l'essentiel, je suis persuadé que l'essentiel est d'abord la bonne volonté. J'estime qu'il ne suffit pas d'écrire sur le papier ou de faire des déclarations. Alors, pour le pape François, je ne doute pas de sa bonne foi, mais je doute beaucoup de la bonne foi de certains dirigeants dans le monde qui font semblant en apparence d'adhérer aux valeurs olympiques ou aux autres valeurs, alors que dans la réalité, les choses se passent tout autrement. Mais seulement, en même temps, ces valeurs dont on parle, qui sont le respect, la fraternité, sont des valeurs aussi communes à nos religions. Ce sont aussi des valeurs communes. C'est des codes, presque des codes d'honneur en même temps. Et c'est ce qui est peut-être le plus partagé par l'humanité depuis la nuit des temps. Du moins, donc je connais bien les civilisations dans le monde occidental. Maintenant, je vais vous donner juste un petit exemple de ce qui se pratique chez nous, ici en Tunisie. Nous sommes bien sûr musulmans, mais nous avons aussi des origines berbères, etc. La communauté juive en Tunisie est ici depuis pratiquement le second siècle avant Jésus-Christ. Bref, nous sommes à un carrefour de civilisation, donc nous avons pris un peu de tout le monde. Et nous avons une tradition qui est très très ancrée chez nous, c'est le pardon au moment des fêtes. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes très régulièrement, à peu près tous les 6 mois ou tous les 4 mois, puisqu'on est sur un calendrier lunaire, et donc il y a des occasions où on va se voir, on est en famille, entre amis, etc. Et forcément, on sait qu'il y a eu des dissensions, des tensions, c'est des pulsions humaines, c'est tout à fait normal, et donc pour apaiser tout ça, il y a le pardon. On s'embrasse et on se salue et on se fait les vœux, au fait, même si on ne s'est pas parlé pendant 6 mois. Voilà. Donc c'est une autre façon d'envisager la trêve, c'est de savoir à un moment donné se dire, on se rencontre et on parle et on se réunit et on met entre parenthèses ce qui a pu nous séparer.
Professeur Mbodge, Thomas Bach, président du Comité international olympique, a souligné que les valeurs olympiques rejoignent celles des religions, notamment le catholicisme. En tant que spécialiste des religions, comment voyez-vous cette convergence des valeurs et comment pouvons-nous utiliser ces valeurs communes pour renforcer la fraternité et la compréhension entre les peuples de différentes confessions, en particulier dans des régions en conflit?
Il a parfaitement raison. D'ailleurs, une anecdote que beaucoup oublient, la devise olympique n'a pas été créée par Pierre de Coubertin, qui est d'ailleurs un catholique pratiquant, mais plutôt par son collègue, son ami, avec qui il a travaillé, le père Henri, j'oublie son nom de famille pour l'instant, et donc qui était un prêtre catholique dans la banlieue française, à l'époque où le catholicisme social, était assez développé et cherchait à ramener la foi dans le sport. Le père Diron, voilà, un père dominicain, c'est lui qui a inventé cette fameuse devise en 1895. Donc il y a définitivement une influence religieuse très nette sur les Jeux olympiques, les Jeux olympiques anciens ou modernes. Alors maintenant, concrètement à Paris, ce qui se passe et dans les autres Jeux olympiques, c'est que les athlètes viennent d'horizons religieux différents et il y a toujours une sorte d'espace où ils peuvent communier. Et il paraîtrait, d'après les images qu'on a, que l'espace qui a été créé pour les Jeux olympiques de Paris soit le plus élaboré qu'on ait jamais vu, et où il y a un espace bouddhiste, il y a un espace juif, il y a un espace musulman, etc. Et puis des lieux où ces différentes religions peuvent se retrouver ensemble, en communion ou en discussion, ou pour partager un moment. Alors, donc la religion est là. Et comme effectivement, on peut parfaitement penser que, surtout avec l'inclusion de la notion d'ensemble, de communauté dans la devise, parce que il faut le rappeler, cette devise a été augmentée de ce mot commentaire. Il faut effectivement retenir ce caractère religieux, être ensemble, avoir la paix. Et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, peut-être un instant où les gens peuvent se pardonner, peuvent se regarder en face sans être nécessairement pas animés de mauvaises intentions, et où en tout cas un moment, un espace où certainement les hostilités vont être posées pendant le temps des Jeux, et l'appartenance religieuse, plutôt que d'être un facteur de division, peut-être un facteur d'unité, un facteur de communion.
Frida, justement sur cette question, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, souligne la similitude entre les valeurs olympiques et les valeurs des religions, notamment catholiques. Comment ces valeurs se recoupent-elles et comment ces valeurs s'opposent lorsque elles sont mises en avant pour encourager la fraternité, notamment sur la place de la femme musulmane dans les Jeux olympiques?
Alors, ce qu'il y a de commun quand même, c'est cette fraternité qui lie. C'est vrai que les femmes ont été incluses récemment par rapport aux hommes. Pierre de Coubertin ne voulait pas des femmes. Puis à l'époque, les femmes n'étaient pas de grandes sportives. On ne pensait pas qu'elles pouvaient être aussi compétitrices. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que toutes les valeurs, que ce soit celles de l'Église ou que ce soit celles des Jeux Olympiques, rejoignent quelque chose qui est le dépassement de soi, que ce soit dans la foi ou dans notre rapport à notre Dieu, quel qu'il soit dans les religions monothéistes, nous sommes dans le dépassement de nous-mêmes. Dans les compétitions sportives, on est en dépassement de soi. Et beaucoup le savent, même ceux qui ne sont pas forcément des grands champions, quand on pratique de la course, etc., très souvent, on est en dehors de la réalité, pratiquement. Ce n'est pas une transe, mais un espèce d'état qui nous permet de pouvoir, je ne sais pas, pour beaucoup, ça les repose, d'autres réfléchissent, mais c'est un moment assez magique où on peut penser qu'il y a une présence du divin. D'ailleurs, par rapport à l'Eshkiheb, je vais vous donner juste un exemple pour justement parler d'une femme. Il y a parmi les celles qui ont été connues durant les Jeux Olympiques et qui a été d'ailleurs porte-drapeau des Jeux Olympiques d'été 2020, une Syrienne, une jeune Syrienne, Yusra Mardini, qui a en fait, toute championne qu'elle était, au moment où l'embarcation sur laquelle elle était pour relier, elle quittait la Syrie en tant que réfugiée, elle se sauvait de Syrie donc pour rejoindre la Grèce, l'embarcation a coulé. Elle était avec sa sœur qui était aussi nageuse sur cette embarcation, avec une autre femme, toutes les trois nageuses, elles ont tracté l'embarcation à la nage jusqu'à l'île de Lesbos. Une prouesse incroyable, et ça il faut saluer ce genre de gestes qui sont très symboliques de ce que peut être aujourd'hui quelqu'un. Par rapport à l'humanité, il n'y a pas d'homme et de femme, on est tous des êtres humains. Et il faut saluer aussi certaines qui ont résisté, qui se sont introduites, qui se sont imposées, comme Nawel Moutakawel, qui a été la championne olympique médaille d'or pour l'Algérie en 1984, comme celle qui l'a suivie, Hassib Aboulmakar, qui ont osé courir en short, alors que à ce moment-là, leur pays était à feu et à sang sous le joug de l'extrémisme religieux. Ce sont des choses qui montrent non seulement leur détermination, leur sens des valeurs et leur désir d'aller au-delà et presque de se sacrifier, de dire il faut que j'impose par mon geste et par mon action quelque chose qui permette aux autres femmes et à la société en général de réfléchir et d'aller en avant. Ce sont des passeuses de relais en même temps. Et ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses dans le monde arabe à participer aux Jeux Olympiques, même si cette année, par exemple, paraît-il, certaines n'auront pas le droit de porter le voile, ce qui est dommage. Par contre, j'attire l'attention sur une chose qui s'est passée aujourd'hui. En Grande-Bretagne, il y a 6 étudiants marocains qui devaient participer aux Olympiades des mathématiques, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'actions qui se passent un peu partout sous le forme d'Olympiades au niveau du savoir. Et ces jeunes-là, pour une erreur administrative, paraît-il, ont été empêchés d'aller participer aux Olympiades. Et c'est ça qui entache l'esprit olympique, c'est de se dire qu'on peut avoir bêtement des gens qui se sentent exclus. Et pour des jeunes de 16 ans, ça les marque à vie. Donc, c'est ça. La fraternité, c'est de ne pas oublier l'autre. C'est d'avoir toujours la main tendue, on ne sait pas à qui, mais on aura toujours quelqu'un qui pourra la tenir. Voilà.
Le dialogue des religions, nous parlons des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du rôle des leaders religieux. Frida Darmani, journaliste à Tunis, et le professeur Mohamed Mbodj à Manhattanville University et sont avec nous pour en parler. Professeur Mbodj, les leaders religieux comme le pape et d'autres ont nécessairement un rôle important dans la promotion de la cohésion sociale et de la solidarité. À votre avis, comment ces figures peuvent-elles influencer positivement le dialogue interreligieux, interculturel lors d'événements comme les Jeux Olympiques? Et quels sont les défis et les opportunités pour les institutions religieuses dans ce contexte?
Par exemple, pour l'Église catholique, qui est certainement l'institution confession religieuse la plus puissante dans le monde actuellement est représentée par le pape. Depuis l'attribution des Jeux Olympiques à la France, à Paris, à la ville de Paris plutôt, l'Église catholique française a organisé une série d'ateliers, a dépêché des aumôniers, a créé toute une structure parallèle à l'organisation olympique, disons, sportive officielle, pour offrir, en dehors même de l'espace olympique de Paris, le diocèse et l'archidiocèse de Paris ont leur propre structure où ils rassemblent les gens. Ils ont ouvert beaucoup d'églises à des pratiquants d'autres religions qui, dans le périmètre parisien peut-être, ou en tout cas un peu plus loin que de le permettre le logement au village olympique, ils ont ouvert ces maisons, ces églises, etc., à ces non-catholiques pour qu'ils puissent pratiquer leur religion à tel ou tel moment, et donc une sorte de porte ouverte. Et ces églises sont des sortes de, comment dire, refuges pour tout le monde qui veut pratiquer sa foi et qui peut-être est très loin de sa base ou d'une mosquée ou d'un temple. Donc il y a ces gestes-là qui évidemment viennent de très haut, du pape lui-même, qui donne l'exemple avec l'Église catholique, et certainement d'autres religions peuvent suivre et faire en sorte que les liens de rite religieux ne soient pas strictement confessionnels durant ce moment des jeux et puissent être ouverts à d'autres religions, à d'autres pratiquants religieux, ou en tout cas créer un espace convivial qui permette à des jeunes surtout et peut-être aussi à des touristes qui participent aux jeux de pouvoir pratiquer leur religion dans une enceinte qui ne leur est pas familière, mais qui néanmoins est accueillante et disposée à leur permettre de le faire. Je crois que cet exemple peut suffire pour montrer que les autorités religieuses prennent très au sérieux le monde du sport et en particulier les Jeux Olympiques et font en sorte qu'il y ait une sorte de cohésion, en tout cas de convergence entre l'idéal olympique de créer une communauté et l'idéal religieuse qui est un idéal communautaire. Donc de ce point de vue-là, je pense que les deux peuvent se rejoindre très facilement dans ce cas-ci.
Frida, avec la situation politique divisée en France et les conflits en cours en Afrique, comment les Jeux Olympiques pourraient-ils servir de plateforme pour encourager la réconciliation et l'unité nationale?
Alors il y a déjà des outils. Il y a les outils digitaux qui permettent de dépasser le temps et la distance, qui permettent de rapprocher, qui permettent... En plus, il y a aussi des langues qui nous sont communes. Et apparemment aussi chez les jeunes, parce que c'est aussi eux que ça concerne, peut-être même avant nous, cette langue du digital est celle que tout le monde connaît déjà presque, j'allais dire, à la naissance, mais enfin qu'ils acquièrent très très vite. Donc il y a cet outil-là qui pourrait être utilisé, mais avec justement un encadrement, même s'il est communique, ou du moins sous l'égide des trois religions, malheureusement, par exemple, en islam, il n'y a pas de clergé, mais il y a l'imam de la mosquée de Paris qui est, je ne sais pas ce qui est là, s'il a prévu des actions ou s'il a prévu un accompagnement ou alors des portes ouvertes ou alors quelque chose qui, je ne sais pas, mais effectivement, des actions comme celle que citait le professeur sont très très importantes. C'est de se dire aussi qu'on peut être accueilli. C'est ça le sens des églises, des mosquées, de tous ces lieux qui symbolisent la religion. Et j'aurais souhaité personnellement qu'il y ait une opération, ou plutôt une cérémonie qui se fasse, même si je sais que la France est laïque et que les Jeux le sont aussi et que tout le monde est le bienvenu, mais quelque part un geste symbolique très fort dans un lieu qui représente la paix ou qui représente ce dont on ne voudra plus jamais, qui aurait pu réunir beaucoup de représentants des différentes religions, tout ça pour faire comprendre qu'il y a autre chose que l'extrémisme et les discours qu'on connaît, qui sont très difficiles à entendre ces jours-ci. Et puis il y a aussi autre chose, par exemple il y a cette équipe de réfugiés qui aujourd'hui sont effectivement installés ou réfugiés justement en Europe, mais il aurait pu y avoir des actions pour parrainer l'excellence chez eux, c'est-à-dire un super champion, quelque chose comme ça, qui le montre, parce qu'on ne le sait pas, on découvre incidemment qu'il y a une équipe de réfugiés, alors que c'est eux qui pourraient apporter une différence, pourraient faire émerger autre chose. C'est-à-dire qu'il faut dépasser l'histoire des jeux et des rapports politiques classiques pour être dans l'excellence et l'émulation. Voilà, tout simplement. Tout ça dans la plus grande fraternité, bien entendu.
Merci. Je vais vous lire ce commentaire du journaliste olympique indépendant, Tarsis Harerimana, qui est basé à Ottawa, qui dit « Ce qui est particulier avec les JO de Paris, c'est la crise politique actuellement en France, marquée par un gouvernement démissionnaire qui va gérer les Jeux selon la charte olympique. En principe, pendant les Jeux, la ville organisatrice ne peut pas abriter ou organiser des activités politiques. Pas de problème pour la présidente du Parlement qui a été réélue. Son accréditation est toujours valable. Mais il est difficile de changer actuellement le gouvernement à la veille et pendant les Jeux. Aussi, malgré la crise ukrainienne, les athlètes neutres russes et biélorusses seront présents sans participer au défilé. Leurs médailles ne seront pas classées et l'hymne de leur pays ne sera pas joué en cas de victoire. Aussi, la Palestine et Israël participeront aux Jeux de Paris malgré la crise actuelle. Cet événement qui rassemble toutes les religions, toutes les idéologies et toutes les cultures du monde contemporain est la plus médiatisée de la planète. Ces symboles prêchent l'unité, la paix, le respect et l'amitié entre les hommes. Comme dans l'Antiquité, les Jeux olympiques sont une célébration et un rituel organisé par des mortels en l'honneur Dieu. De la victoire olympique est en même temps humaine et divine, mais elle est d'abord sacrée avant d'être profane. La trêve olympique était un don des dieux, décidé par l'oracle de Delphes, un acte antique qui s'est transformé en une résolution adoptée par tous les États membres des Nations Unies. Cet acte divin, la trêve olympique, que le souverain pontife souhaite voir respecté par tous. Le temps file, professeur Mbodge, un petit commentaire en 30 secondes.
Oui, c'est l'esprit olympique d'une manière générale, et comme j'ai dit, depuis la Grèce antique jusqu'à sa renaissance, et effectivement, mais une chose que j'ai déjà mentionnée, c'est que souvent on parle de Pierre de Coubertin comme le fondateur des Jeux modernes, mais lorsqu'on va dans sa biographie, on se rend compte que c'était aussi quelqu'un qui était actif sur le front du catholicisme social. Donc il y a une sorte de prolongation de cette inspiration religieuse qui fait que ce n'est pas seulement donc le dépassement personnel, je crois que mon collègue l'a dit, mais quelquefois il y a bien une sorte de recueillement de religion et même de conversation avec Dieu par les athlètes qui, à des moments de la performance, certainement intègrent une dimension spirituelle et une dimension divine dans leurs actions, même si c'est 10 secondes sur le 100 mètres ou 2 heures de temps dans le marathon. Il y a bien que souvent des dimensions spirituelles, et il n'y a qu'à voir souvent les gestes que font les athlètes avant et après.
Frida, 30 secondes.
Justement, la citation que vous venez de lire rejoint tout à fait ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, c'est même des conseils de sagesse qui remontent depuis l'Antiquité, à un moment donné, il faut laisser les affaires humaines, le sport, la politique, tout ce qui nous tracasse, pour pouvoir se dédier à autre chose qui est le dépassement, qu'il soit sportif, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, etc. Il est beaucoup plus dans la nature de l'homme que de se battre sur des choses politiques, par exemple, qui n'ont pas de sens. Tout ça est tellement éphémère, tandis que inscrire une performance, ça permet de faire progresser, que ce soit les performances sportives ou les autres. C'est une question de progrès pour l'humain, tout simplement.
En célébrant les Jeux olympiques, nous avons l'opportunité de nous rappeler et de réaffirmer les valeurs de paix, de fraternité et d'unité. Ces valeurs peuvent transcender les défis politiques et sociaux actuels en inspirant une nouvelle ère de coopération et de compréhension mutuelle. C'est la fin de ce dialogue des religions. Eric Manilakiza a été avec vous. Merci à Frida Darmani, journaliste à Tunis. Merci au professeur Mohamed Bodj à Manhattanville University. Gisèle Morissin a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.